De vous présenter le père Luc Marie, qui est calme, comme ça se voit, vous voyez. Auteur de quelques livres, je crois d'ailleurs. Hein. Vous avez écrit quelques livres, hein.
Oui.
Ouais. Sur ce, notamment sur Sainte-Thérèse, évidemment.
Et il y en a un sur la prière.
Il y en a un sur la prière, à lire, ah, aux éditions du Carmel, j'imagine.
Oui, la prière, une divine aventure.
La prière, une divine aventure, ça donne envie quand même,
et
non
c'est, et c'est vraiment spécifiquement sur l'oraison, c'est sur ce que nous sommes en train de faire dans tout ce cycle-là. Donc vraiment, c'est bien, si vous voulez l'acheter, ça sera très bien.
Allez sur Amazon. Bon, merci au père, vous vous souvenez que la dernière fois, donc, avec le père José, nous...
Aux éditions du Carmel.
Oui. Aux éditions du Carmel. Donc avec le père José, nous avions vu déjà un petit peu ce qu'était l'oraison, et puis des plus détails un peu pour faire oraison. J'espère que vous avez pratiqué un petit peu pendant la semaine. Et nous continuons notre petit cycle de conférences avec le père Marie, qui va nous parler plus précisément de l'homme et de la prière.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, reçons ainsi la réponse. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Notre-Dame d'aller,
priez pour nous.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
José vous a entretenu dans la première conférence en posant la question « Qu'est-ce que l'oraison ?» n'est-ce pas ? Et moi je voudrais vous entretenir ce soir en posant la question « Qu'est-ce que l'homme qui fait oraison ?» Je crois que c'est important que nous puissions savoir et bien connaître de quel bois nous sommes faits, afin que lorsque nous allons rentrer dans ce monde intérieur, que nous prenions conscience que ce n'est pas un bloc monolithique, et que nous sommes, si vous voulez bien me permettre cette schématisation, comme un oignon. C'est pour ça que j'ai dessiné ici une sphère qui représente, en vue écrasée, un oignon. Vous savez qu'un oignon, il est fait de différentes pelures. Et qu'au fur et à mesure qu'on enlève les pelures, on va de couche en couche, de l'extérieur vers l'intérieur. Mais si vous voulez, schématiquement, on pourrait dire, bien que ça ne soit pas géographique et spatial, parce que nous sommes des créatures spirituelles, on peut dire schématiquement, nous pouvons penser la personne humaine, un petit peu comme un oignon avec des couches qui vont plus en plus profondément de l'extérieur vers l'intérieur. Donc ici on va mettre le monde, le monde que nous pouvons connaître par la périphérie immédiate de cette sphère, de cette personne que nous sommes à travers ce qu'on appelle les cinq sens. Et le premier sens qui se met au contact du monde pour le connaître, c'est le sens du toucher. Et puis ainsi les cinq sens. Le toucher, le goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. Ce sont, si vous voulez, ces cinq sens, ce sont pour nous comme des antennes, des capteurs qui vont vraiment, en nous mettant en contact du monde, nous permettre de le connaître. Nous sommes ici vraiment dans le monde de la connaissance, on va préciser, de la connaissance sensible. Et tous ces sens externes vont être connectés sur des sens qui sont plus intérieurs de nous-mêmes, qui ne sont pas à la périphérie, qui ne sont pas à l'épiderme, qui sont plus intérieurs, c'est pour ça qu'on les appelle les sens internes, hein, ils sont ici, vous les connaissez, au moins deux d'entre eux, le troisième souvent n'est pas connu, et c'est bien dommage parce qu'il est extrêmement important. Premier sens interne, le plus connu, celui par lequel nous allons garder au-dedans de nous les actes du sens externe, quel qu'il soit. Toucher, goût, odorat, oui et vu. C'est le sens de l'imagination. L'imagination nous permet de reproduire les actes du sens externe en l'absence des objets que nous avons préalablement connus. Voyez, par exemple, si je regarde la dame qui se trouve ici à ma droite et qui s'appelle, oui, votre prénom, Marion, je la regarde, je me retourne et je peux tout à fait continuer de la voir au-dedans de moi avec son foulard rouge, avec sa veste bleue, voilà, avec son sourire et puis son petit bloc-notes blanc, voilà, et son stylo. Voilà. Mais qu'est-ce qui me permet, comme ça, sans plus être au contact de cet objet extérieur, de continuer de la voir au-dedans de moi, hein? C'est l'imaginaire. Mais je n'imagine pas, par reproduction, que des actes de la vue. Je peux imaginer des actes de l'odorat, par exemple, l'odeur de l'herbe coupée du jardin de mon grand-père, hein, que je garde au fond de moi-même, et de fait, chaque fois qu'on coupe le gazon, au printemps ou à l'été, je me trouve projeté affectivement dans le jardin de mon grand-père, parce que j'ai gardé une forte impression de cette odeur de l'herbe coupée. Voilà, l'imagination. Alors, nous pouvons, à souhait d'ailleurs, dans une fantasmagorie intérieure et un véritable délire de l'imaginaire, reprendre certains de ces actes éparses que nous avons gardés en nous et recomposer, voyez, les choses, hein, d'une manière totalement, je dirais, fictive. C'est pour ça que les films de science-fiction, en fait, sont une recomposition délirante de ce que nous avons conservé au-dedans de nous par l'imagination. Ces actes du sens externe conservés à l'intérieur dans l'imaginaire, il faut que nous puissions évidemment les mettre dans une chronologie. Sinon, c'est le chaos, parce qu'il y a un avant, un aujourd'hui et un après. Quel est ce sens interne par lequel nous ordonnons les actes de l'imaginaire dans une chronologie? C'est la mémoire. Deuxième sens interne, la mémoire. Et tout cela, ces actes de l'imaginaire et de la mémoire, ont pour effet, en nous, de susciter une répulsion ou une attraction par un troisième sens interne, qu'on appelle la cogitative, qui n'a rien à voir avec le fait de cogiter. La cogitative, c'est le sens interne par lequel nous éprouvons des sensations, nous sommes toujours dans le monde de la connaissance sensible, agréables ou désagréables. C'est la cogitative qui me fait dire que je préfère le rouge au bleu, qui me fait dire que je préfère le sucré au salé. C'est la cogitative qui me fait dire que cette personne, sans la connaître, je ne comprends pas pourquoi, mais elle m'est antipathique. Ou que cette personne, le premier contact que j'ai avec elle, je la trouve super sympa et je me trouve fortement attiré par elle et j'ai envie de lui parler, j'ai envie de rentrer en contact avec elle. Voilà, pour X raisons qui font qu'avec moi, ça colle, tandis qu'avec d'autres, ça ne collera pas. Vous voyez, donc c'est complètement aléatoire, c'est le sens par lequel nous éprouvons de la répulsion, de l'attraction, c'est le sens par lequel nous avons de la sympathie ou de l'antipathie. C'est fondamental. Vous voyez, et donc il n'y a rien de moral là-dedans. Le fait d'avoir de l'antipathie ou de la sympathie, c'est une donnée brute de la nature que nous subissons et qui se trouve là en nous, vous voyez, sans qu'il y ait aucune responsabilité. Alors après, c'est ce que nous en ferons de nos mouvements d'antipathie ou de sympathie qui vont leur donner une connotation morale. Mais en fait, vous voyez, le fait d'avoir une attraction ou une répulsion vis-à-vis des barbus, vous n'y pouvez rien, c'est comme ça. Et on dit bien d'ailleurs que les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas. Hein, qu'est-ce qui fait que vous préférez Rembrandt à Gauguin? C'est la cogitative. Nous sommes ici dans vraiment le monde de la connaissance. Et ce monde de la connaissance sensible, hein, il faut bien préciser, donc je vais le mettre ici en chevauchement, connaissance sensible, va déclencher en nous, c'est dommage qu'on n'ait pas un feutre rouge, comme ça on aurait pu faire la distinction, s'il y en a un, ces connaissances sensibles que nous faisons, et qui sont liées à l'expérience du monde extérieur, vont déclencher en nous un monde qui nous fait rentrer dans le monde de l'affectivité sensible, qui est le monde des passions. Passion vient du latin passior, qui veut dire pâtir. Vous voyez, c'est-à-dire que la cogitative fait que j'aime pas les barbus, et donc sous l'empire de l'expérience du barbu qui se trouve devant moi, j'éprouve à l'intérieur de moi une passion qui s'appelle la passion de la haine. Mais c'est pas la haine morale, c'est la haine passion. Après, c'est ce que je fais de cette passion de la haine qui va faire que ce sera moral ou pas. Hein, j'éprouve une passion qui est la passion de la haine. Comme je peux avoir la passion de la haine des betteraves, parce que depuis tout petit, je n'ai jamais aimé les betteraves, ou les carottes, ou les haricots, ou la morue, ou la viande de porc. Vous voyez, donc c'est la passion de la haine. Vous avez comme ça, non ? Tout un foisonnement de passion qui se déclenche à partir des connaissances sensibles. Et nous sommes là dans le monde de ce qu'on appelle l'affectivité sensible. Donc passion de la haine, passion de l'amour, passion de la peur, passion de la tristesse, passion du plaisir, passion de l'espoir, passion du désespoir, passion de l'audace, passion de la colère, etc., etc. Et donc on va dessiner ici une zone plus intérieure que les sens internes qui nous fait rentrer, ce moment, change de couleur, dans le monde de l'affectivité sensible. Donc ici je mets affect sensible, c'est-à-dire des passions. Donc vous avez les passions dites du concupiscible, je ne détaille pas trop, les passions de l'irascible. Les passions du concupiscible, c'est les passions qui sont liées à une réalité qui est facile à repousser ou facile à embrasser. Et les passions de l'irascible, ce sont les passions qui se déclenchent au contact d'une réalité qui est difficile à repousser ou difficile à obtenir. Donc vous avez comme ça, on a des passions, on a concupiscible, l'amour, la haine, la tristesse, la peur, plaisir, et les passions de la combativité, les passions voilà, qui nécessitent vraiment de se remonter les manches, vous voyez, parce qu'il va falloir en découdre pour obtenir ce bien vers lequel nous tendons, ou bien pour repousser ce mal hein, que nous ne voulons pas à tout prix. Donc c'est la passion de l'espoir, passion du désespoir, passion de l'audace, passion de la colère. Voilà. Et comme ça, on a, vous voyez, en nous, tout un bouillonnement de passions qui sont là et qui s'agitent, et qui sont liées, vous voyez, à ces connaissances sensibles que nous avons réalisées, et qui déclenche, parce que nous pâtissons sous l'effet de ces connaissances sensibles, ces mondes de passion. C'est important de connaître tout ça. Parce que quand je vais faire oraison, tout ce monde-là, il est là, présent en moi, et il fonctionne. Hein, il fonctionne et il peut même s'agiter. Alors après, au-delà de cette zone de l'affectivité sensible, troisième couleur, nous avons une zone qui est plus intérieure encore. Et là, nous franchissons la zone de l'humanité. Jusqu'à présent, nous étions dans un monde qui était commun aux animaux et à l'humain. Car nous avons la vie sensible commune avec les animaux, qui eux aussi ont les sens externes, les sens internes, ils ont l'imaginaire. Hein, les animaux, ils ont l'imaginaire. La preuve, c'est qu'ils rêvent la nuit. Et donc, un chien qui jappe alors qu'il est en train de dormir, c'est un chien qui rêve. Et il rêve à partir de la faculté de l'imaginaire. Hein. Et évidemment, le monde des passions chez les animaux, qui est extrêmement important. Hein. Ce n'est que ça, d'ailleurs. Les animaux, c'est des petites machines passionnelles. Vous voyez, vous avez un chien qui est affamé, vous lui mettez un gâteau à la chantilly devant le nez, il va se jeter dessus. Et nous, qu'est-ce que nous allons faire si nous sommes affamés, nous avons un gâteau à la chantilly devant nous? Nous allons avoir un mouvement intérieur dans la passion de l'amour qui va nous faire nous projeter vers ce gâteau à la chantilly pour nous emparer, le dévorer. Sauf si ma faculté spirituelle d'intelligence me permet de discerner que je suis diabétique et que manger du gâteau à la chantilly, c'est pas bon pour moi. Et ça, je le comprends, je le discerne. Et c'est ce qui va me permettre, parce que je l'ai bien vu clairement et discerné, avec une deuxième faculté qui est la faculté de volonté, de choisir et de décider de ne pas prendre de ce gâteau à la chantilly alors que je suis sous l'empire d'une passion qui est la passion de l'amour du gâteau à la chantilly. J'aime pas les barbus. J'ai jamais aimé les barbus. Non, c'est pas, je dis, c'est un cas d'école, hein, que les barbus ici ne se sentent pas concernés. J'aime pas les barbus. J'ai vraiment une forte et virulente passion de haine envers les barbus. Peut-être parce qu'ils me rappellent mon père, qui d'ailleurs n'est pas barbu. Peut-être parce qu'ils me rappellent mon père, qui était barbu, avec lequel j'ai des problèmes de relation, des blessures qui ne sont pas résolues. Et quand je vois barbu, ça me rappelle mon père. Vous voyez, et donc du coup, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Et comme ça, on peut avoir des mouvements de l'affectivité sensible qui se déclenchent à partir d'actes de la connaissance qui nous mettent en liaison avec des événements du passé par la mémoire, hein, et qui font que, effectivement, il y a des choses qui se passent en nous et qui sont liées parfois à notre histoire. Bon, j'aime pas les barbus. Ça déclenche en moi la passion de la haine. Oui, mais je discerne avec mon intelligence que c'est un enfant de Dieu. Et que, à ce titre-là, je veux être avec lui dans le don généreux de moi-même, tout autant qu'avec les autres. Et c'est pas parce que j'éprouve un mouvement de répulsion avec les barbus que je vais être désagréable avec les barbus. Je vais faire attention, justement, de ne pas être dominé par mes mouvements passionnels afin de pouvoir poser les actes que je veux, que je choisis, en ayant bien discerné le bien, le vrai bien. Et l'Évangile, pour ça, nous aide puissamment, la connaissance de l'Évangile nous aide puissamment à renseigner nos intelligences, à éduquer nos intelligences pour qu'on puisse comprendre où est le bien, le vrai bien, et poser des choix qui soient ordonnés à ce vrai bien. Voilà, donc nous avons ces deux facultés spirituelles, hein, qui sont totalement immatérielles et qui constituent, parce qu'elles sont immatérielles, l'immortalité de l'âme humaine. L'âme humaine, au contraire de l'âme animale, l'âme humaine, elle est immortelle parce qu'elle repose, enfin elle se développe à partir de facultés qui sont immatérielles. Mais il ne faut pas confondre les facultés avec l'âme, parce que les facultés sont les organes, si vous permettez l'expression, de l'âme. Comme mon bras, vous voyez, mon bras, il est un organe par lequel je peux poser des actes. L'intelligence et la volonté sont comme des organes par lesquels l'âme peut poser des actes de connaissance intellectuelle et des actes d'amour spirituel. Donc, plus intérieur, nous avons une zone qui est la zone de l'âme, dont les facultés spirituelles sont les organes. On dit les facultés. Les facultés, ce sont les facultés de l'âme. Ici, nous sommes dans un monde plus intérieur, qui est le monde de, pour la volonté, de l'affectivité rationnelle, qu'on distingue ici de l'affectivité sensible, et pour l'intelligence, on est dans le monde de la connaissance rationnel. Et j'aurais dû, ici, pour être cohérent, remettre du vert. Vous voyez, j'aurais dû remettre du vert pour l'intelligence, et j'aurais dû mettre du bleu pour la volonté. Puisque la volonté, elle s'apparente en tant qu'affectivité rationnelle à l'affectivité sensible, et l'intelligence du vert, parce que en tant que connaissance rationnelle, elle s'apparente à la connaissance sensible. Mais bon, j'ai mis en noir pour bien distinguer le monde sensible du monde spirituel. Les animaux n'ont pas cette dimension spirituelle. C'est pour ça que l'homme n'est pas un super animal. L'homme n'est pas un super animal, un animal super développé. Il y a autant de différences entre un homme et un animal qu'il y a de différences entre un animal et un végétal. Pour nous, il n'y a pas ambiguïté. Un végétal, c'est pas un animal, vous êtes d'accord avec moi. Et bien de la même façon, un animal n'est pas un humain, ou un humain, si vous voulez plutôt, n'est pas un super animal, pas plus qu'un animal n'est pas un super végétal. Alors que l'animal a la vie végétative. Il croit, il se reproduit, et il se nourrit, hein, ce qui définit la vie végétative. Bon. L'âme, hein, l'âme spirituelle de l'homme. Et nous avons, plus intérieur encore, sur la cime de notre âme, dirait François de Sales, saint François de Sales, ou bien il dit encore au cœur de notre cœur, nous avons, dirait saint Jean de la Croix, ou saint Thérèse d'Avila, le centre de l'âme qui est l'esprit, c'est-à-dire quelque chose de mystérieux dans la spiritualité de l'âme qui est au contact de Dieu et même inhabité de lui. Quand on dit inhabité, c'est pas le in de privatif, in de infini, vous voyez, hein, indéterminé, c'est in de inerré. Donc, inhabitation, ça veut dire habiter dedans. L'esprit qui est au contact de Dieu est inhabité de Dieu. C'est-à-dire que il ne faut pas croire qu'il y ait du vide en nous. Nous sommes pleins. Pleins d'une présence, évidemment, plénière. Hein, c'est une répétition. Plein d'une présence plénière. Hein. Nous sommes pleins d'une présence qui est infinie, qui est transcendante, et qui est en nous, qui est divine, et avec laquelle nous allons pouvoir connaître sensiblement, aimer affectivement, comprendre intellectuellement, choisir volontairement. Tout le monde de l'horizon va être la mise en branle de toutes ces réalités qui nous constituent et qui nous composent pour aller dans la présence de grâce, nous mettre en connaissance et en amour avec ce Dieu qui nous habite. Le problème, c'est que ce Dieu qui nous habite, c'est une révélation. Et c'est une révélation qui nous dit que ce Dieu qui nous habite, réellement, il est néanmoins inévident. C'est-à-dire que si je ferme les yeux, dans le silence, ben, il n'y a rien qui se passe. Je ne vois rien, je ne sens rien, et j'ai l'impression de me retrouver presque seul avec moi-même, vous voyez, d'ailleurs même avec mes angoisses, avec mes problèmes et mes difficultés, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, ces angoisses et ces difficultés que j'ai au-dedans de moi, que je porte notamment dans le monde de mes passions, fait que je vais fuir cette intériorité, parce qu'elle est un lieu, un milieu qui n'est pas sûr, mais qui est insécure pour moi. Vous voyez, donc je vais essayer de le fuir pour aller au dehors, essayer de me distraire de cette intériorité. Sauf si il y a quelque chose qui, de l'intérieur, me dit qu'il y a effectivement une présence. Et qu'est-ce que c'est qui me dit qu'il y a bien une présence en moi, et qui me le dit d'une manière certaine, bien que ça soit totalement inévident, et qui me le dit d'une certitude plus certaine que si j'en avais l'évidence? C'est la foi. La foi qui a son siège dans l'intelligence, et par laquelle nous pouvons connaître Dieu, que Dieu est présent au-dedans de nous, sans le voir, sans le sentir, sans éprouver de passion affective pour lui. Vous voyez ? C'est que la foi nous dit que Dieu est présent au-dedans de nous. Et c'est plus certain que j'ai une moelle épinière au centre de mes os. Vous voyez ça, la moelle épinière au centre de vos os, ça, vous ne pouvez pas en douter, surtout si vous avez une sciatique. Hein. N'est-ce pas ? Il y a quelqu'un qui vient de guérir une sciatique parmi nous. Donc ça, on ne peut pas douter que nous avons une moelle épinière, parce que voilà, ça, c'est un objet d'observation. Et grâce à cette observation, voilà, nous pouvons avoir une certitude absolue. Mais la foi nous dit et nous permet de croire d'une manière certaine que Dieu est présent en nous, plus certainement que nous savons par l'évidence que nous avons une moelle épinière. C'est ça la foi, hein ? La foi, c'est pas un peut-être que. La foi, c'est pas j'espérerais que, j'aimerais bien que. La foi, c'est pas ah, ça serait super si. La foi, c'est des yeux qui, à l'intérieur, s'ouvrent sur une réalité dont je ne peux absolument pas douter. Donc c'est voir sans voir. C'est être certain sans évidence. Mais quand je dis certain sans évidence, c'est plus certain que si j'en avais l'évidence. En sorte que nous savons que le Seigneur est présent au milieu de nous ce soir, parce que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça veut dire que si en ce moment même, vous aviez une apparition du Seigneur Jésus, ça ne changerait rien pour vous. Parce que pour ce qui est de la certitude de sa présence, vous n'avez pas besoin d'une apparition. Donc cette apparition, si elle se produisait, ne susciterait en vous aucune surprise. Ou alors, si cette apparition suscitait en vous une surprise et vous faisait dire « Mon Dieu, c'était donc vrai !» Ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Ah, « Mon Dieu, c'était donc vrai !» Donc ça veut dire qu'il a fallu que je voie pour croire. Mais la foi fait que nous n'avons pas besoin de voir pour croire. La foi fait que nous voyons et nous croyons mieux que si on voyait. La foi fait que on voit sans voir, en voyant mieux que si on voyait. Vous me suivez ? Bon. Donc la foi, il faut réfléchir un peu à ce que c'est. Hein. La foi, C'est un miracle. Hein, c'est un miracle plus grand et plus grandiose qu'un paralytique qui se lève au milieu de nous. La foi, c'est un acte de l'Esprit Saint au cœur de notre esprit. C'est une lumière surnaturelle intérieure qui nous communique dans l'intelligence cette certitude que Dieu est présent au milieu de nous. Et la volonté qui choisit, qui fait élection, et par laquelle nous nous donnons, avec ou contre le mouvement des passions, hein, de manière bien distincte, la volonté qui fait que nous nous donnons à Dieu dans l'amour, en préférant notre Dieu à nous-mêmes, c'est-à-dire sa volonté aux fantaisies de notre volonté, aux inclinations, hein, de nos appétits. Quelle est cette vertu qui va se greffer sur la volonté et qui va nous faire aimer ce Dieu qui est au-dedans de nous plus que nous-mêmes? C'est la charité. Voilà. La faculté, alors la charité, c'est la vertu surnaturelle de l'amour. Bon. Alors, revenons à nos moutons. L'oraison. Parce qu'on est quand même là pour parler de l'oraison ce soir. Je vous ai dit, l'oraison, c'est aller à la rencontre de ce Dieu qui nous habite. Et je suppose que José a dû vous dire ça la dernière fois. Oui ou non? Bon, c'est ça l'oraison fondamentalement. L'oraison, c'est une plongée avec le bathyscaphe de la Comex dans les abysses de notre intériorité en allant à la rencontre de ce Dieu dont nous nous savons aimer par la foi. La rencontre dans un amour de charité de ce Dieu dont nous nous savons aimer par la foi. Pas dont nous sentons aimer. Hein. Pas besoin de sentir. Hein. C'est pas dont nous nous sentons aimer, dont nous nous savons infailliblement aimer, quand bien même on sentirait le contraire. Parce qu'on ne peut pas douter de l'amour de Dieu pour nous. Même si on est perclus d'une maladie grave qui, on le sait, nous achemine vers notre fin ici-bas. Et que nous demandons un certain nombre de choses au Seigneur qu'il n'a toujours pas exaucé, nous savons que de toute façon nous sommes infiniment aimés de Dieu et qu'il fait tout concourir à notre bien et que c'est parce qu'il répond à nos prières, il ne répond pas à nos prières de demande telles que nous voulons être exaucés, que nous ne sommes pas entendus et que Dieu n'agit pas dans notre vie. La foi qui déplace les montagnes, la foi qui ne doute pas une seconde de l'amour infini de Dieu pour nous, qui de fait a livré son Fils unique et ce Fils unique donné sa vie pour nous, en sorte que si le Père des cieux donne sa vie pour nous et que ce Fils que si le Père des cieux donne son Fils pour nous et que ce Fils donne sa vie pour nous dans cet amour divin qui est l'Esprit Saint, qu'est-ce que nous pouvons attendre de plus? Qu'est-ce que nous pouvons espérer d'autre? Alors c'est bien de demander, hein. Il faut bien comprendre quand même quand nous demandons que nous avons déjà tout reçu. Dans le mystère du Christ, du Fils de Dieu, qui a donné son corps, son sang pour nous. Et ça, tous les jours, dans l'actualité de nos vies, en chaque Eucharistie, hein, qui est le mémorial de l'amour infini de Dieu pour nous, concrètement célébré dans l'histoire à travers son Fils incarné, mort par amour pour nous sur la croix. Et nous avons l'amour de Dieu infini qui nous est donné dans le Christ. Et là, nous avons tout. Donc, quand je suis à la messe, je suis l'enfant gâté pourri du bon Dieu. À la messe, je suis l'enfant gâté pourri du bon Dieu. C'est-à-dire que moi qui suis malgré tout pécheur, moi qui suis pauvre type, pauvre fille, moi qui suis si infidèle, moi qui suis si idolâtre, eh bien, malgré tout ça, Dieu se donne et se redonne à moi dans la fidélité inconditionnellement, qui que je sois, quoi que je fasse. C'est l'amour de Dieu pour nous. Voilà. Donc nous avons tout reçu dans le Christ, hein, et l'Eucharistie va être vraiment pour nous le lieu de cette célébration de l'amour infini de Dieu pour nous. Alors, nous avons cette foi en ce Dieu dont nous nous savons infiniment aimés et que nous voulons aimer de charité comme il nous a aimés. Donc, je dis, mais comment on peut être chrétien et ne pas lui adresser la parole de la journée et ne pas vouloir lui donner une demi-heure pour lui et lui seul. Quand il nous a aimés comme il nous a aimés, comment pouvons-nous rester une journée sans lui donner au moins une demi-heure où nous sommes là tout entiers pour lui, que pour lui, en fermant la porte de notre chambre, en fermant les portes de nos sens et tout le reste pour être présent à sa présence? Est-ce qu'il le mérite? Il ne le mérite pas. Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Et quel Dieu! Un Dieu d'amour, hein, qui donne son Fils unique, et ce Fils unique donne sa vie, hein, pour nous. Parce qu'on n'a plus de prix pour lui qu'il n'a de prix pour lui-même. Je dis, mais comment? Voilà, on peut être chrétien et laisser passer une journée sans s'adonner à la prière, à l'oraison. Vous êtes venu pour ça, parce que vous avez au fond de vous-même cet attrait des profondeurs de ce Dieu dont vous vous savez aimé et auquel vous voulez donner l'hommage d'une présence à sa présence par une prière, par une oraison. Et c'est pour ça que vous venez ce soir. Hein. Et ça glorifie le Seigneur. Et c'est la joie de Dieu de voir que nous voulons nous rendre présents à sa présence, dans une gratitude, dans une action de grâce. Alors, toute la difficulté pour nous, c'est que notre connaissance et notre affectivité va de l'intérieur vers l'extérieur. Nous connaissons et nous aimons en nous projetant sur le monde qui nous environne, afin de le sentir et après l'avoir senti de l'épouser, hein, et nous sentons ce monde par la connaissance pour l'épouser à travers notre affectivité augmentée, voilà, de nos discernements et de nos choix profonds, et on va comme ça constamment du matin au soir de l'intérieur vers l'extérieur et on se périphérise, vous voyez, en permanence par le mouvement de notre connaissance, hein, et de notre affectivité. Le problème de la prière et de l'oraison, c'est que nous devons faire le mouvement inverse. C'est-à-dire aller de l'extérieur vers l'intérieur. Car ce que nous voulons connaître et aimer n'est pas au dehors, mais au-dedans. En notre centre le plus profond. La difficulté, c'est que Dieu, deuxième difficulté, difficulté première, c'est d'aller de l'extérieur vers l'intérieur, deuxième difficulté, c'est que ce Dieu-là, il est esprit pur. Il est esprit pur. Parce que Dieu est Dieu. Et la création est une œuvre de ses mains à laquelle il est présent, mais qui transcende totalement. Et j'ai envie de vous poser la question, qui est Dieu? À cette question, qui est Dieu, on ne peut guère répondre qu'en disant qu'il ne peut être connu que comme inconnaissable. Tellement il dépasse ce que notre intelligence peut appréhender, voilà, et ce que notre amour peut embrasser. Dieu est tellement au-delà, hein, de tout le créé, Dieu est tellement transcendant. Quelle est donc cette intelligence divine qui, en ce moment même, peut connaître l'histoire dans ses moindres détails, jusqu'en ses plus menus soupirs, espoir, peur, de chacun d'entre nous, depuis le jour de notre conception jusqu'à aujourd'hui. En une seule vue, toute simple, quelle est cette intelligence divine qui peut nous dire, ici et maintenant, combien il y a de fourmis actuellement sur la planète ? Bon, on dit, Dieu est celui qui voit la fourmi noire sur la pierre noire dans la nuit noire. L'intelligence divine, la science en Dieu, ce qu'est l'amour de Dieu, en fait, j'en sais trop rien. Je sais que Dieu est amour, mais comment l'amour se réalise en lui ? Ça reste un très grand mystère pour moi. Je sais que Dieu est miséricorde, mais comment la miséricorde se réalise en Dieu ? J'en ai pas la moindre idée. D'ailleurs, si nous avions la vision de l'amour de Dieu, nous serions cramés, brûlés. Si on a la vision de l'amour de Dieu pour nous, on n'a pas les lunettes, vous voyez, on n'a pas le cœur qui est suffisamment grand et proportionné pour pouvoir recevoir et accueillir l'amplitude de son amour infini pour nous. Vous voyez, donc notre petit cœur serait totalement, je dirais, pulvérisé et explosé dans l'expérience de l'amour infini de Dieu pour nous. Vous voyez, c'est une expérience qu'on fait, ça, hein, quand on est très aimé de quelqu'un, à un moment donné, vous voyez, on peut être... avoir une sensation, vous voyez, d'être submergé et de vivre des choses qui sont tellement fortes que, bon, on a besoin de reprendre un peu ses esprits. Hein ? Je pense que les expériences d'amour sont tellement fortes qu'il faut pouvoir reprendre ses esprits. Alors qu'est-ce que ça peut être avec le bon Dieu si on vit des expériences comme celle-là, parfois avec les créatures, avec certaines créatures. Donc, cet amour de Dieu, il est infini, cette science de Dieu, elle est infinie, et donc nous ne pouvons finalement le connaître que comme inconnaissable, et donc on a envie de dire, mais qu'est-ce qu'on va fiche de toutes ces capacités de connaissance sensible, qu'est-ce qu'on va fiche de toutes ces capacités d'affectivité sensible, qui sont absolument pas proportionnées à la rencontre, à l'expérience de ce Dieu invisible et infini qui nous habite. Donc on a le sentiment que l'entreprise, elle est vouée à l'échec avant même qu'on s'y lance. Hein, parce qu'il faut aller de l'extérieur vers l'intérieur, nous on est habitué à aller de l'intérieur vers l'extérieur, et en plus de ça, pour aller rencontrer quelqu'un au-dedans de nous, qui nous dépasse complètement et totalement, en sa science et en la force et la puissance de son amour. Donc, nous voilà comme laissés sur le carreau et sur le bord de la route, comme dans une entreprise qui est impossible. Impossible. Impossible n'est pas français. Ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Et effectivement, qu'est-ce que Dieu va faire pour que nous puissions le rencontrer au-dedans de nous avec nos sens et notre affectivité sensible, chargé de foi et de charité, alors qu'il est esprit pur. Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Jésus.
C'est-à-dire ?
L'incarnation.
L'incarnation. Voilà. L'oraison, ça, retenez-le bien, c'est très important. L'oraison va être une rencontre intérieure avec l'humanité de Jésus de Nazareth. Ne cherchez pas à faire oraison par d'autres voies et d'autres chemins que celui-là. C'est lui le média de Dieu. C'est lui le médiateur. C'est lui qui est, en tant qu'il est le Fils de Dieu fait chair, qui est pour nous esprit humain incarné, c'est lui qui est notre moyen proportionné à l'expérience de Dieu. Est-il le Fils de Dieu ou pas, hein ? C'est ça la question. Est-il le Fils de Dieu, consubstantiel au Père ? Est-il la personne du Fils éternel, engendré, non pas créé ?
Lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, est-il vraiment cette personne divine égale au Père? Dieu pleinement Dieu? Si c'est le cas, et que je crois à Jésus, Fils de Dieu, dans la plénitude de sa vie divine, quand je suis au contact de son humanité, je suis au contact de sa personne. De sa personne divine. Donc il n'y a pas d'expérience de Dieu, en fait, plus haute et plus réalisée que celle du contact avec l'humanité de Jésus de Nazareth. Ça, c'est quelque chose qu'on explique au début d'un enseignement sur la vie d'oraison. La dernière fois, José vous a appris qu'est-ce que c'était que l'oraison. Il vous a dit que c'était une rentrée, une plongée à l'intérieur de soi. Et je suppose qu'il vous a dit que c'était une rencontre, une expérience d'amour et d'amitié avec Jésus de Nazareth. Et pour rencontrer cette humanité de Jésus de Nazareth, nous allons, de fait, essayer d'utiliser savamment et intelligemment toutes les zones de notre être, de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais donc tout d'abord fermer les écoutilles du sous-marin, parce qu'on va aller en profondeur. Donc vous fermez les écoutilles, sinon le bateau il va prendre l'eau et puis on va couler, hein, au lieu de descendre en profondeur. Et donc il s'agit de fermer les sens externes. Donc je me mets dans un environnement obscur. Dans une pénombre. J'essaye de ne pas avoir de bruit autour de moi et d'être dans un endroit où ça ne sent pas trop mauvais. Parce que si vous faites oraison dans un endroit où ça pue les pieds, vous allez avoir du mal à vous recueillir, à aller au-dedans, au centre, parce que votre odorat trop stimulé vous projette à l'extérieur et vous limite à la réalité, voilà, de ces pieds qui puent. Ou le goût. Hein, on ne peut pas faire oraison en mangeant un sandwich de jambon, en fait, ça me semble difficile. Hein, ou en train de prendre des petits biscuits, des chips ou des bretzels. Hein, ou siroter, pendant qu'on fait oraison, un verre de jus d'orange ou de jus de poire. Et on reste immobile. On ne bouge pas. Vous remarquez une chose, c'est quand vous faites oraison, vous ne bougez pas et vous essayez de ne pas bouger. Et si vous avez envie de bouger, relax. On se détend et on essaye de ne pas bouger. Parce que plus je bouge, plus je stimule le toucher, plus je m'énerve, plus je m'excite, plus je me mets à la superficie, à la périphérie, moins j'arrive à me recueillir, moins j'arrive à me recueillir, plus je m'agace, plus je bouge. Et ça, c'est le signe indubitable. Quand vous priez à côté de quelqu'un qui gesticule toutes les 4 minutes, ça veut dire qu'il n'arrive pas à plonger au-dedans. Et la première des choses à faire, c'est, malgré le fait qu'on a envie de bouger, c'est de ne pas bouger. Et s'astreindre à essayer de ne pas bouger. Alors, se mettre dans une position qui est quand même relativement confortable. Mais pas trop non plus. Parce que si je suis dans une position très confortable, ben je vais m'endormir. Et donc du coup, je ne vais pas pouvoir rencontrer mon Seigneur et mon Dieu par la foi et la charité. Donc une position confortable et en même temps voilà, assez exigeante, vous voyez, pour pas que j'aille m'endormir. Donc je ne m'appuie pas sur le dossier de la chaise. Vous voyez, je reste assis et je ne m'appuie pas sur le dossier de la chaise. Ou je ne me prosterne pas au sol. Je reste à genoux sur mon petit prie-dieu et je ne me prosterne pas au sol. Si je me prosterne au sol, je me mets à ronfler. Dans les 5 minutes qui suivent, à coup sûr. Donc on ferme les sens externes. Et on les ouvre vers une réalité intérieure qui est Jésus. Comment ? Eh bien, j'allume une bougie, je regarde une icône, je fais brûler un peu d'encens et j'écoute, peut-être pour essayer de me recueillir, sans mettre trop fort, un chant de l'Emmanuel, un chant de Fongomo, Grégorien, bien. Vous voyez, musique classique, hein, pour se recueillir, bien que ce soit des compositeurs chrétiens qui écrivent des pièces musicales à thème religieux, comme le Te Deum, des choses comme ça. Bon, la musique classique, si on est mélomane, c'est très bien, mais pour prier, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus adapté. Mais je crois que vous pouvez vous aider à rentrer en horizon, c'est-à-dire à rentrer à l'intérieur de vous-même, en essayant d'avoir une petite musique qui vous aide à vous calmer, à vous apaiser, voilà, et à vous centrer à l'intérieur. Et donc, il y a plein de choses qui sont faites hein, pour ça. Les musiques méditatives, à la sitar, les musiques méditatives, voilà, les communautés religieuses qui sont partout dans le monde. Bon, c'est immense. Voilà. Et l'imaginaire, alors lui, alors c'est la folle du logis. Hein. Voilà, Thérèse d'Avila a beaucoup souffert de l'imaginaire. L'imaginaire chez Thérèse d'Avila, c'est le traquet de moulin, disait-elle. La folle du logis. Vous voyez, donc un bourdement de mouche, elle a dit. Un bourdement de mouche. Alors, elle a beaucoup de mal à maîtriser son imaginaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'endiguer la folie, voilà, centrifuge de notre imaginaire? Eh bien, on essaye de la diriger, de la canaliser. Hein, comment? À chacun de trouver le moyen qui lui convient. Donc, ça peut être en nous figurant une scène de l'Évangile, hein, qu'on se représente à l'intérieur, de Jésus au Jardin des Oliviers, de Jésus à la colonne, ou bien voilà, de Jésus en train de prêcher le discours des béatitudes aux foules, Jésus qui se retire à l'écart avec ses apôtres, Jésus dans la grotte voilà, du Pater, hein, qui leur transmet la prière chrétienne. Vous avez foisonnement de scènes d'évangile à travers lesquelles vous pouvez essayer voilà, de canaliser votre imaginaire. Hein, ou bien, tout simplement, de maintenir ce qu'on appelle une notice d'attention amoureuse à la présence de Jésus qui est là, au-dedans de moi, mon ami et mon compagnon. En disant une parole cyclique qui me parle au cœur et qui m'inspire de la dévotion. Par exemple, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et on va la réciter en essayant de se calmer et au rythme du flux et du reflux de la mer au bord du rivage. Vous voyez, en inspirant et en expirant et en associant notre corps, vous voyez, à ce mouvement intérieur tout spirituel qui va à la rencontre de Jésus le bien-aimé. Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi, pécheur. Et quand je le dis, je le dis consciemment à quelqu'un à qui je m'adresse. Hein, c'est pas, je dirais, une espèce de machine à répétition qui n'est pas une adresse à quelqu'un. Donc il faut que je puisse, par la foi, le visualiser devant moi, certainement, et lui parler, comme on parle à un ami. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour moi. Ou bien, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es une parole de la vie éternelle. Seigneur Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Etc. Bon, après, c'est à vous, hein, à essayer de trouver hein, des paroles qui vont vous aider. Ensuite, vous pouvez, toujours pour canaliser cet imaginaire et développer cette notice d'attention amoureuse à la présence de Dieu, vous pouvez prendre une page d'évangile. Et donc cet évangile, vous allez le lire, attention, d'une manière spéciale, d'une manière particulière. C'est-à-dire en transformant ce que vous lisez pour le lire à la deuxième personne du singulier. C'est-à-dire au lieu de lire Jésus prit avec lui ses apôtres, nanana, vous lisez, Jésus, tu tu pries avec toi tes apôtres et avec eux, tu leur dis, voyez, pour que votre lecture de l'Évangile ne soit pas une lecture qui vous parle de Jésus, mais que votre lecture de l'Évangile soit un moyen pour vous de parler à Jésus. Quand on prie, on ne se parle pas de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. On parle à Dieu à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis après, avec toute la créativité, toute l'inventivité, voilà, de votre monde intérieur. Hein. Et tout ça, dans une conscientisation de nos passions, dans une conscientisation de vos passions. Si en ce moment vous êtes triste, vous allez trouver Jésus dans sa tristesse. Si en ce moment vous avez peur, vous allez trouver Jésus dans sa peur, car Jésus a eu aussi peur. Hein? Père, éloigne de moi cette coupe de souffrance. C'est bien l'expression qu'il y a quelque chose dans l'affectivité sensible de Jésus qui est pris d'effroi, hein, et qui suscite un mouvement de répulsion profond vis-à-vis de sa passion, et qui peut se traduire aussi par une peur, hein, ou le plaisir. Vous avez un moment où vous éprouvez du plaisir pour je ne sais quoi. Vous allez rejoindre Jésus qui éprouve du plaisir quand il va voir ses amis Marthe et Marie et Lazare à Béthanie. Et ainsi, comme ça, je crois que c'est très important que votre oraison, elle se développe toujours en connexion étroite avec le mouvement de vos passions ici et maintenant, présent. Ce que vous ressentez en ce moment, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez en ce moment, c'est important que vous puissiez le mettre en connexion, à l'unisson avec Jésus qui a voulu éprouver ça comme vous, qui a voulu ressentir ça comme vous, afin que vous n'y soyez pas seul. Et c'est toujours ça la difficulté pour nous, c'est de trouver un mystère de l'Évangile dans lequel nous puissions trouver une harmonique avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment. Et que là, vous voyez, en méditant ce mystère de l'Évangile qui est en harmonique avec ce que je vis en ce moment, je puisse découvrir dans la fréquentation affective de Jésus au-dedans de moi qu'en fait, je ne suis pas seul. Je suis compris. Et ce que je vis, ce que je ressens, c'est partagé par le Seigneur. Et là, il va pouvoir me consoler. Il va pouvoir me consoler. L'oraison est un lieu de consolation pour notre affectivité. Et si la charité nous prend et nous saisit, on aura envie, nous aussi, à notre tour, de consoler Jésus et de lui dire, Seigneur, tu as vécu ça, toi aussi, dans ta vie. Bien, je ne veux pas t'y laisser seul et je veux bien le vivre avec toi et comme toi. Alors, Seigneur, aujourd'hui, je ne te demande pas d'être libéré de cette trahison que je viens de subir et qui me fait terriblement souffrir. J'aimerais bien souffrir cette trahison avec toi, pour toi, par amour pour toi, afin de ne pas t'y laisser seul. Et voyez comment nos problèmes, nos difficultés, nos souffrances, quand dans l'oraison, on veut bien les vivre avec Jésus pour le consoler et pour l'accompagner, nous mettons toutes nos souffrances et nos difficultés, nous les récupérons, nous les rattrapons dans une perspective d'amour. Et ça, c'est 80% de la guérison. Parce que toute souffrance, toute difficulté qui est vécue et remise, rattrapée dans l'amour, est immédiatement soulagée, apaisée. Ce qui nous fait souffrir dans la souffrance, c'est pas la souffrance en elle-même. C'est surtout ce que nous mettons comme disposition spirituelle au cœur de notre souffrance. La révolte, le repliement sur soi, le sentiment d'incompréhension et de solitude. Et c'est ça surtout qui nous fait souffrir dans l'expérience de la souffrance. Encore plus que la souffrance en elle-même. Et si à un moment donné, dans notre souffrance, avec la grâce de l'Esprit Saint, je viens développer de l'amour, de la charité, il y a déjà quelque chose, vous voyez, de mes souffrances qui s'est ouvert et qui s'est dilaté dans le Christ. Voilà comment, vous voyez, avec notre connaissance sensible, avec notre affectivité, hein, et l'exercice, évidemment, de notre foi et de notre charité, nous allons pouvoir, à un moment donné, aller à la rencontre de ce Dieu qui est présent dedans de nous et dont nous nous savons aimer, qui porte un nom et un visage, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, notre Sauveur et notre Dieu. Voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Vous voyez, après avoir fait avec José, qu'est-ce que l'horizon, je voulais avec vous poser la question, qu'est-ce que faire en raison dans notre expérience humaine, dans notre humanité. Qu'est-ce que l'homme, hein? Qu'est-ce que l'homme qui fait en raison? Alors, non, peut-être il y a des questions.
Y a-t-il des questions? Pas de questions. Henri.
Personnellement, je suis très bien ici, en harmonie, mais j'ai l'impression de ne pas avoir la foi. Et pour vous, avoir la foi, c'est une évidence. Je dirais que c'est presque mathématique. Il y a peut-être un chose de danse et démonstratif auquel j'adhère, mais à la fin, c'est un peu plus difficile, non pas par refus, mais par intelligence, simplement. Et par ailleurs, ce qui me conforte dans l'idée que je peux ne pas avoir la foi, c'est que j'ai entendu souvent que la foi était une grâce. Alors je me dis, cette grâce, ben, il se peut que je la demande, donc je cherche depuis des années, et pour l'instant, cette grâce, je ne l'ai pas. Et j'ai déjà entendu cette parole, et je termine là-dessus, j'ai vu un documentaire réalisé par la radio protestante, protestante catholique, ce qui n'est pas d'importance là-dedans, puisqu'il s'agissait de reconstituer les voyages de Saint Paul. Et l'acteur qui avait bien personnalisé Saint Paul disait qu'il avait fait ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir, mais qu'il n'avait pas pour autant la foi. Et il terminait en disant « La foi est une grâce, et cette grâce, je ne l'ai pas ». Alors ce n'est pas en contradiction avec ce que vous venez de dire, c'est simplement pour témoigner de difficultés que j'ai et que d'autres peuvent avoir.
Alors, donc effectivement, j'ai bien dit que ce n'est pas une évidence, puisqu'on ne voit rien, on ne sent rien, donc ce n'est pas une évidence, c'est une certitude. Et c'est ça, le miracle et l'insolite de la foi, c'est qu'on puisse avoir une certitude alors qu'on ne voit rien. Paradoxal. Et donc, comment expliquer qu'on puisse être certain d'une réalité qu'on ne voit pas, qui n'est pas observable, qui n'est pas quantifiable et démontrable? C'est la grâce, c'est ça exactement ce que vous dites. Or, je vous ai bien écouté, la grâce, vous l'avez. Et pourquoi? Parce que vous m'avez dit que vous cherchez. Et le Seigneur dit bien à saint Augustin, tu ne me chercherais pas si tu ne m'es pas déjà trouvé. C'est-à-dire qu'en fait, une âme qui est en quête de Dieu, qui se pose la question de la foi, qui se dit, oh, mais moi, j'aimerais croire, mais j'y arrive pas, enfin, c'est dur. C'est une âme qui s'est déjà laissée aimanter par l'esprit qui l'attire à Dieu. Donc en fait, vous êtes sous l'action de la grâce dès que vous vous mettez en quête et dès que vous vous mettez à chercher. Et c'est vrai que la foi, elle sera toujours, comment dirais-je, nimbée d'obscurité, hein, et elle est souvent d'ailleurs, dans son expression, un combat contre les doutes qui nous assaillent et qui, à un moment donné, nous tentent. Qui se tiennent à notre porte et qui veulent nous faire décrocher de la foi. Et c'est là que nous devons nous accrocher à nos raisons de croire. Et malheureusement, nous manquons trop de raisons de croire. Ce qu'on appelle les signes. Donc les signes ne suffisent pas, hein, parce que c'est l'action de l'esprit qui nous donne de croire. C'est l'esprit qui, au niveau de la volonté, met un mouvement d'inclination qui nous fait donner l'assentiment de notre intelligence à la révélation. Donc c'est une grâce, c'est une action de l'Esprit Saint en nous, la foi. Mais elle se fait aussi à travers des signes que Dieu donne, dans lesquels et par lesquels nous allons être, comme on dit, confortés dans notre foi. Et les signes, vous en avez. Vous avez, par exemple, le grand signe de Fatima. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Notre-Dame de Fatima. En 1917, ce qu'on appelait la danse du soleil, le 13 octobre 1917, vue par 70 000 témoins, croyants comme incroyants, c'est un fait et un phénomène qui est absolument indubitable et qui est pour nous, pour notre temps, hein, une raison de croire. Ou bien un autre signe qui est extraordinaire, pour moi en tout cas, c'est le signe du Saint-Suaire. C'est que sainte Thérèse de Lisieux, avant de mourir, a dit que la première chose qu'elle demanderait à Jésus, c'est de montrer sa sainte face à l'humanité tout entière. La photo qui a été prise du Saint-Suaire pour la première fois, et qui a été le révélateur du positif, en fait, du visage du Christ, par le négatif du négatif, parce que le Saint-Suaire, c'est un négatif photographique. Mais quand on a pris en photo ce négatif photographique, ben le négatif de la photo, c'est un positif. Et c'est cette fameuse image du Saint-Suaire qui a été, au moment où le photographe a pris la photo du Saint-Suaire pour la première fois, au début du XXe siècle, a été comme une révélation de la sainte face du Christ. Et bon, après, la synodologie, la science qui étudie le Saint-Suaire, quand on s'y intéresse, nous laisse quoi, hein, COI, c'est-à-dire sur le petit coup de pied, le tremplin qui fait que cette image, c'est la relique de la résurrection. Cette image s'est imprimée sur ce tissu par l'événement lumineux et photographique de la résurrection. Le Saint-Suaire, c'est un négatif photographique. C'est un événement dont la source est lumineuse. C'est un signe extraordinaire, le Saint-Suaire. Vous avez des signes beaucoup plus basiques, beaucoup plus simples, beaucoup plus accessibles. Comment expliquer que, à l'époque de Jésus, où il y avait beaucoup de messies prétendus, comment expliquer que les apôtres qui ont vu Jésus mourir sur une croix, dans le silence de Dieu, l'échec de sa mission, aient pu du jour au lendemain se mettre à dire partout « Il est ressuscité, nous l'avons vu, il est vivant. Si effectivement ils ne l'ont pas vu, mettons-nous à leur place. Ils voient Jésus mourir sous leurs yeux, dans le silence de Dieu, une victime innocente de plus dans l'histoire des hommes. Jésus leur a fait miroiter beaucoup de choses, et a suscité en eux beaucoup d'espoir, mais son histoire s'est terminée, comme celle de tout le monde, c'est-à-dire dans le désespoir. Et donc les apôtres, quand Jésus meurt, rideau, ils ont été trompés, et ils se sont trompés. Et c'est pour ça qu'ils quittent Jérusalem, les disciples d'Emmaüs. Ils quittent Jérusalem, ils s'en vont. Et au moment de la passion, ils se sont tous carapatés. Il n'y en a qu'une qui croit en la vie de son fils quand il meurt et qui attend la résurrection, c'est la Vierge Marie. C'est la seule. Tous les autres, ils ne croient pas. Tous les autres, ils ne croient pas. Ils ne pensent même pas qu'il faut croire. Tellement ils sont submergés par l'échec cuisant de Jésus de Nazareth. Et comme ça, les mecs, ils vont comme ça du jour au lendemain péter un câble et aller dire partout « Christ est ressuscité, Christ est ressuscité ». Comment expliquer une chose comme ça? Comment expliquer un tel revirement comme celui de la prédication apostolique et du kérigme après l'événement de la fin tragique de Jésus de Nazareth? Ça ne peut s'expliquer que par la vision du ressuscité. Ça ne peut s'expliquer que comme ça.
Mais pour les apôtres, mais eux l'ont vu, mais après vous parlez de signes, puisqu'on a pas
vu de signes pour croire.
Ah oui, bon, après, donc, dans toute l'histoire de l'Église, bon, il y a tous ceux qui ont attesté une vision du Christ. Vous voyez, mais bon, je pense que le phénomène de la prédication du kérigme apostolique, rien qu'en lui-même, suffit pour nous permettre d'adhérer à la foi dans le Christ ressuscité. Et après, bon, tout au long de l'histoire de l'Église, à cause de notre fragilité, de la faiblesse de notre foi, On a beaucoup, beaucoup de signes qui sont donnés à l'Église universelle, et nous avons aussi après les signes qui nous sont donnés personnellement, dans nos histoires, si nous voulons bien ouvrir les yeux. Vous voyez, moi j'ai fait, bon, je ne vais pas vous raconter mon histoire vocationnelle, parce qu'il faudrait rester encore une heure ensemble, mais moi je suis rentré au Carmel, j'ai fait tout, voilà, tout mon cheminement au Carmel, et je me suis rendu compte, plus de 10 ans après être rentré au Carmel, que j'ai été baptisé le 28 mars 1964, qui est le jour anniversaire de la naissance de Sainte Thérèse d'Avila. Bon, alors là, je me dis, c'est pas possible. Je suis dans la main du Seigneur. Et ma vie, elle est toute connectée sur la providence d'amour de mon Dieu, qui tisse mon histoire, hein, au fil, hein, de sa main d'amour. À laquelle je collabore, hein, évidemment, dans un oui, à sa grâce. Mais je pense que plus on est dans le oui à Dieu, et dans la correspondance à son amour, et plus, du coup, sa main peut faire et réaliser tout ce qu'il veut faire et réaliser en nous, et alors là, les signes, à ce moment-là, se mettent à se succéder les uns après les autres. Alors, je vous raconte celui-là, mais j'en ai plein d'autres à vous raconter, hein, je ne rentrerai pas. Puis l'abbé François, pareil, pourrait vous donner un témoignage de tous les signes qu'il a reçus du Seigneur dans sa vie. Et puis on pourrait même donner la parole à chacune d'entre vous. Je suis sûr qu'il y en a qui auraient des témoignages extraordinaires à vous partager. Vous voyez, donc les signes, je crois que c'est important parce que les signes sont des raisons de croire qui nous aident à faire ce saut dans le oui Seigneur, credo, je crois en toi. Voilà. Et j'ai pas besoin de te voir. J'en suis plus certain que si je te voyais. Et je rentre dans la foi. Et j'essaie de m'y maintenir.
D'autres questions ?
Ma question concerne les gens qui ne sont pas vaccinés. Parce que tout le cercle là que vous avez, tous les cercles que vous avez dessinés, à la fin il y a une invitation de Dieu. Est-ce que les gens qui n'ont pas reçu le baptême, théoriquement ils n'ont pas, c'est occulté par le péché originel, et dans ces cas-là, est-ce qu'ils peuvent faire oraison? Enfin voilà, ça, c'est un peu flou comme question, mais.
Oui, c'est une question folle, immense. Vertigineuse. Il faut que j'y réponde, hein. Ce qui nous communique la foi, l'espérance et la charité, c'est-à-dire ce qui donne à notre organisme spirituel d'être surnaturel et donc apte à la connaissance et à l'amour de Dieu, c'est le baptême. Ok ? Donc cette inhabitation de Dieu, cette présence de grâce, elle se réalise par le baptême, qui nous donne foi, espérance, charité, et qui surélève, hein, qui élève, voilà, notre nature, hein, cette capacité de connaissance et d'amour de Dieu. Mais, s'il n'y a pas de faute de ma part, dans cette non-connaissance et ce non-amour de Dieu, parce que je n'ai jamais refusé la grâce baptismale, ben parce que je n'ai jamais connu, parce que je n'ai jamais vécu dans un contexte chrétien, parce que je n'ai jamais eu, voilà, de possibilité, peut-être parce que Dieu ne me l'a pas encore offert pour des raisons que lui seul connaît, je suis, sans avoir cette grâce baptismale et cette capacité de connaissance et d'amour, je suis par rapport à Dieu innocent. Je ne suis pas responsable de cette absence de foi, d'espérance et de charité. Et donc, on va dire, je suis dans une puissance, une capacité, à la fois l'espérance et la charité. Et donc, là, c'est ce que dit en tout cas la tradition de l'Église, ceux qui ne sont pas baptisés et qu'il n'y a pas de faute de leur part dans la non-foi, la non-espérance et la non-charité, seront jugés en fonction de leur religion, de leur appétence du vrai et du bien, et font partie, dit saint Thomas, des membres en puissance du Christ, sans être encore, par le baptême, des membres en acte. Ça va ? Donc, évidemment, je suis en train de dire qu'il y a un salut pour les non-baptisés. Hein. C'est ça que je suis en train de dire. Hein. Je suis en train de dire qu'il y a un salut pour les musulmans, et je suis en train de dire qu'il y a un salut pour les bouddhistes, il y a un salut pour tous les hommes, de toute race, langue, peuple, nation, sur la surface de la terre. Mais attention, quand je dis qu'il y a un salut pour tous, ça sera forcément et nécessairement un salut par le Christ. Ils ne seront pas sauvés par leur religion. L'islam ne sauve pas. Le bouddhisme ne sauve pas. Il n'y a que Jésus-Christ qui sauve. Les chrétiens, mais aussi les musulmans et les bouddhistes, qui n'ont pas eu la chance de le connaître. Alors c'est nous qui sommes baptisés, et qui avons la chance de connaître Jésus, de le leur faire connaître à travers notre mission. Vous voyez, donc c'est pas parce que je dis qu'on peut se sauver dans le Christ en étant musulman et bouddhiste sans le savoir que ça vide la mission de son de sa pertinence, que ça vide la mission de sa nécessité, évidemment. Je ne suis pas sûr que les musulmans puissent dire ça de nous par rapport au salut. Ou les autres. Les visions quand même de christianisme sur le salut universel dans le Christ, qui est quand même extraordinaire. Et qui ne laisse personne sur le bord de la route. Vous voyez, qui ne jette vraiment le discrédit et l'opprobre sur personne. Et on peut dire aussi d'ailleurs que c'est pas parce que je suis baptisé que je suis inscrit sur les registres de baptême que ça y est, c'est réglé, je suis sauvé. Parce que tu as reçu, ok, une puissance active le jour de ton baptême, à la fois l'espérance et la charité, que le musulman, le bouddhiste n'a pas reçu. Mais est-ce que tu fais passer cette puissance active à l'acte ? Que fais-tu de ce don de la foi et de la charité que tu as reçu au baptême ? On a reçu des muscles. Ça ne suffit pas d'avoir des muscles. Il faut les faire travailler pour que, faisant travailler nos muscles, ils soient capables de soulever des poids lourds et faire l'œuvre que nous sommes appelés à faire, voyez, avec notre corps et avec toute notre musculation. Je dis, mais si je suis paresseux et que je reste allongé au fond de mon lit du matin au soir, bien à un moment donné, effectivement, je ne tiens plus debout et je sers à quoi dans le monde et quelle est l'exploitation de ce potentiel que Dieu m'a donné dont je ne fais rien. Et bien c'est pour ça que le Seigneur dit dans l'Évangile que celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. C'est-à-dire que si nous n'exerçons pas la foi et la charité que nous avons reçue au baptême, alors que nous avons connu le Christ Sauveur, nous portons une responsabilité énorme et c'est pas gagné pour notre salut. C'est la parole de l'Évangile, de ceux qui, au moment du jugement dernier, paraissent devant le Seigneur, et certains qui disent « Mais Seigneur, nous t'avons connu, nous avons prêché ton nom sur les places, etc. Allez-vous-en, vous qui faites le mal, je ne vous connais pas. » Hein, et d'autres qui leur disent « Venez les bénis de mon père, mais non, on ne te connaît pas, on ne t'a jamais vu. Si, ce que vous avez fait au plus public entre les masques, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voyez, donc encore, en dehors du christianisme, on peut vivre une ordination à Dieu mystérieuse qui fait qu'il nous reconnaîtra parmi les siens. Donc, baptisé, oui, mais qu'est-ce que je fais de mon baptême ? France, qu'as-tu fait de ton baptême ? L'iniquité de la France que nous connaissons actuellement est quelque chose de dramatique, c'est quelque chose de terrible.
Question ? Non.
Certains, après c'est trop tard. Bon. Eh bien, merci au Père.